VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 18h30 GMT, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 15 mars 2017. John Linden en direct de Washington. Au sommaire ce soir, bien mal acquis, mise en examen d'un neveu de Denis Sassou Nguesso à Paris. Wilfried Nguesso est soupçonné d'avoir détourné des fonds publics. En Guinée, Toumba Diakité a comparu pour la première fois hier à Conakry. Extradé du Sénégal, il était recherché pour le massacre d'opposants en 2009. Le pape François ne se rendra plus en RDC comme annoncé. Lambert Mende affirme que la visite a été annulée par Kinshasa. Rex Tillerson est arrivé ce mercredi au Japon. Le séjour asiatique du chef de la diplomatie américaine intervient à un moment de vives tensions dans la région. Et puis, retrouvez Nicolas Pinault à la fin de ce journal pour les sports et Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco. Tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Wilfried Nguesso, neveu du président du Congo, a été mis en examen dans l'enquête dite des biens mal acquis. Les investigations portent notamment sur la société congolaise de transport maritime dirigée par Wilfried Nguesso et dont une partie des fonds aurait été détournée pour servir à l'enrichissement personnel de ce dernier. Des faits que conteste sa défense. La justice a par ailleurs déjà saisi une luxueuse demeure dans la région parisienne, soupçonnant Wilfried Sassou Nguesso d'en être le véritable propriétaire. Deux appartements dans le très chic 17e arrondissement de Paris, au nom de l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, ont également été confisqués, ainsi qu'une quinzaine de voitures de luxe appartenant à l'entourage du président. En février 2016, Denis Sassou Nguesso a porté plainte en France, estimant que ces pièces sur lesquelles sont fondées cette enquête ne sont pas conformes à la réalité. Le militant guinéen Aboubacar Sidiki, dit Toumba Diakité, extradé récemment du Sénégal, a comparu pour la première fois mardi à Conakry, où il a été entendu par un juge selon une source judiciaire. Toumba Diakité était recherché pour le massacre d'opposants en 2009 dans un stade de Conakry. Retour sur son extradition avec Zakaria Camara.
C'est une extradition qui a suscité des réactions en Guinée. Pour les autorités guinéennes, il s'agit de faire revenir un témoin important dans une affaire que la justice guinéenne promet de juger. L'ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara, lui-même ex-chef de la junte militaire, était au stade du 28 septembre, le jour du massacre, affirme plusieurs témoins et victimes. Des victimes, mais aussi leurs familles, qui ont salué l'extradition du béret rouge. Dans une déclaration commune, la FIDH et ses partenaires nationaux parlent d'un signal puissant en faveur de la lutte contre l'impunité. Mais ces organisations parlent également d'une urgence à tenir le procès compromis par la justice guinéenne. Arrivé le 12 mars aux environs de 19h, le commandant Aboubacar Sidiki Diakité revient au pays après 7 ans de cavale. Le militaire a été entendu mardi par un juge lors d'une audience qui visait à vérifier son identité. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Un total de 291 civils ont été tués et 143 blessés dans des attaques attribuées au groupe djihadiste nigérian Boko Haram en 2 ans entre février 2015 et février 2017 dans la région des Difa, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, a rapporté mercredi l'ONU à Niamey. Le Cameroun a annoncé avoir libéré plus de 5000 civils des mains des islamistes armés nigérians de Boko Haram lors d'une opération militaire transfrontalière au cours de laquelle une soixantaine de djihadistes ont été tués. L'opération a été pilotée par la composante camerounaise de la force multinationale mixte, une force régionale en lutte contre Boko Haram. Restons au Cameroun pour signaler que Paul Biya a nommé un anglophone pour promouvoir le bilinguisme au Cameroun. C'est Peter Mafani Musonge, sénateur de la région du Sud-Ouest en zone anglophone du Cameroun, qui va diriger cette commission pendant 5 ans, éventuellement renouvelable selon un décret présidentiel signé ce mercredi. Monsieur Mafani, 75 ans, est un homme du Sérail, militant du parti au pouvoir, le RDPC. Il a occupé les fonctions de premier ministre de 1996 à 2004.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, entretien à Paris entre le président français François Hollande et son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Selon un communiqué de l'Élysée, le chef de l'État français a confirmé le soutien de la France aux efforts de la Côte d'Ivoire en matière de restructuration des forces de sécurité, en particulier dans leur préparation au déploiement dans le cadre d'opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou de l'Union africaine. Le président français François Hollande s'est dit par ailleurs ouvert à toutes les proposition que les 15 pays de la zone franc pourraient formuler lors de leur prochaine réunion le 14 avril. Ici aux États-Unis, le nouveau décret migratoire du président Donald Trump se joue devant la justice aujourd'hui, à la veille de son entrée en vigueur. Des États démocrates et des ONG exigent la suspension du texte après le rejet de sa première version le mois dernier. Jacques Aristide.
C'est une deuxième bataille judiciaire qui se développe sur plusieurs fronts, dont des audiences cruciales devant des tribunaux fédéraux d'un pays très divisé sur la question de l'accueil des migrants. Dans l'État du Maryland, le bras de fer oppose le gouvernement à une coalition d'organisations de défense des libertés et des réfugiés. À Hawaï, archipel comptant une forte proportion d'habitants d'origine étrangère, c'est l'État lui-même qui poursuit le gouvernement. Enfin, rejoint par 5 autres États, le bastion démocrate qu'est l'État de Washington sur la côte ouest a de nouveau saisi le juge Robert de Seattle, James Robert. Souvenez-vous, ce juge qui avait bloqué le 3 février dernier le premier décret de la nouvelle administration américaine sur l'immigration. Le président Trump affirme avoir remanié son executive order de façon à parer toute contestation légale. La mesure vise à fermer temporairement les frontières américaines aux réfugiés et suspendre l'octroi de visa durant 90 jours pour les ressortissants d'Iran, de Libye, Syrie, Somalie, du Soudan et du Yémen. Elle exempte les détenteurs de visa et de cartes vertes. Pour le locataire de la Maison-Blanche et ses principaux ministres, ce décret est vital pour la sécurité nationale. Mais les opposants affirment que la nouvelle mouture continue de cibler de façon discriminatoire les musulmans.
Première tournée asiatique du chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État Rex Tillerson est arrivé mercredi soir au Japon. Les précisions de Michel Joseph.
Tillerson doit s'entretenir avec le premier ministre japonais Shinzo Abe et le ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida. Il se rendra ensuite en Corée du Sud, allié traditionnel des États-Unis, aujourd'hui secoué par le scandale de corruption ayant entraîné la destitution de la présidente Park Geun-hye. Tillerson achèvera sa tournée en Chine. Son séjour asiatique intervient à un moment de vive tension dans la région. Les manœuvres militaires en cours entre les armées américaines et sud-coréennes ont amené la Corée du Nord à tirer 4 missiles balistiques en mer au nord-ouest du Japon. Ce sujet fera l'objet des discussions du secrétaire d'État Rex Tillerson à Pékin, d'autant plus que les États-Unis ont besoin du concours de la Chine sur le dossier nord-coréen.
Les Pays-Bas, petit pays de 17 millions d'habitants, élisent aujourd'hui leur premier ministre et leur député. La formation islamophobe de Geert Wilders pourrait rafler de nombreux sièges au Parlement, mais les derniers sondages l'annoncent battu par le Parti populaire libéral et démocrate. Salwa Jafari.
Les bureaux de vote ont ouvert ce mardi à 7h30 pour des législatives perçues comme un baromètre du populisme et de l'extrême droite. Après le Brexit au Royaume-Uni et la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, tous les yeux sont braqués sur la formation du député islamophobe Geert Wilders, qui est redescendu dans les derniers sondages après avoir caracolé en tête pendant de nombreux mois. À la sortie d'un bureau de vote, il restait optimiste.
Je suis toujours optimiste. Merci beaucoup. Ce sera une journée très intéressante. Beaucoup de choses sont en jeu en Hollande. J'espère bien sûr que nous gagnerons, mais que nous gagnions ou perdions, je pense que nous avons laissé notre marque sur les élections.
Vers 9h30 GMT, le taux de participation était de 15% contre 13% aux dernières élections en 2012. Les 12,9 millions d'électeurs potentiels pourront voter jusqu'à 20h GMT dans des milliers de bureaux de vote installés dans des écoles, les gares, les magasins ou parfois même chez les particuliers. Les premiers sondages de sortie des urnes sont attendus peu après.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et sur voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
La société française Total a annoncé aujourd'hui avoir mis en production le projet Mohonor en mer profonde, situé à 75 km au large de Pointe-Noire, en République du Congo. Ce projet aura une capacité de production de 100 000 barils par jour. Selon le directeur général exploration-production de Total, Arnaud Breuillac, Mohonor est le plus important projet pétrolier jamais réalisé en République du Congo. L'édition 2017 de la triennale de l'ADEA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, s'est ouverte ce matin à une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar. Pour Marine Niane, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal, l'éducation et la formation constituent un levier de développement pour l'Afrique. Hommes politiques, chercheurs et bailleurs de fonds se penchent cette année sur les moyens de revitaliser l'éducation dans la perspective du programme universel 2030 et de l'agenda 2063 pour l'Afrique. Selon une étude du Pew Research Center effectuée entre 2010 et 2016, dans la plupart des pays du monde, 40% des travailleurs sont des femmes. Les seuls pays qui dépassent la barre des 50% se trouvent en Afrique subsaharienne. Seul bémol, selon cette étude, dans tous ces pays, les femmes ont plus de probabilités de travailler dans l'économie informelle et donc d'être dépendantes des hommes. Ces métiers, sans régulation officielle, offrent moins de possibilités d'obtenir des sources de revenus stables et des salaires élevés.
Une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler des sports. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Huitième de finale de la Ligue des Champions.
Malgré l'avantage de 2 buts que possède son équipe depuis le match aller avec la victoire 5-3, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, affirme qu'il sera fidèle à sa philosophie de jeu ce soir au Stade Louis II contre Monaco et dans l'autre huitième de finale de la soirée, Atlético Madrid-Bayer Leverkusen. Blessé, Kevin Gamero ne jouera pas, à l'inverse Fernando Torres est de retour dans le groupe madrilène. Au match aller, les Colchoneros s'étaient nettement imposés 4-2 en Allemagne.
Et hier, Leicester a réussi un nouvel exploit.
Pour sa première participation à la Ligue des Champions, Leicester accède au quart de finale après sa victoire hier 2-0 sur le FC Séville. Les Anglais ont d'abord marqué par leur capitaine Wes Morgan avant que Albrighton double la mise à la 54e minute de jeu. Dans l'autre rencontre de la soirée, la Juventus de Turin a fait le minimum, victoire 1-0 contre Porto grâce à un pénalty de Paulo Dybala. A noter que le gardien espagnol de Porto, Iker Casillas, est devenu hier le joueur le plus capé dans l'histoire des compétitions organisées par l'UEFA avec, tenez-vous bien, 175 matchs joués.
Et demain, place à la Ligue Europa.
L'ogre Manchester United reçoit Rostov, face auquel il a calé en Russie 1-2. Lyon doit préserver son avantage sur la pelouse de la S-Rom après une victoire convaincante à l'aller 4-2. Les autres rencontres, le derby belge Genk, la Gantoise, le Besiktas qui accueille l'Olympiakos, Krasnodar face à Celta Vigo, l'Apoel Nicosie en déplacement chez Anderlecht, et puis l'Ajax d'Amsterdam contre Copenhague, ou encore le derby allemand Mönchengladbach contre Schalke 04.
Toujours demain, grand rendez-vous à Addis Abeba pour la CAF.
Issa Hayatou qui brigue à 70 ans, 8e mandat à la tête de la Confédération africaine de football qu'il dirige depuis 1988. Le méconnu Ahmad Ahmad, président de la Fédération malgache, est le seul à s'opposer à lui ce jeudi lors de l'élection à Addis Abeba.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Golden State est reparti de l'avant après 3 défaites d'affilée en dominant tout juste Philadelphie 106-104, tandis que Russell Westbrook, auteur de son 33e triple-double de la saison pour Oklahoma City, a permis à son équipe de l'emporter face à Brooklyn 122-104.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour et on commence par la RDC où le pape François ne se rendra finalement plus en juin et gé comme annoncé. Selon les autorités congolaises, la visite a plutôt été annulée à leur demande. Elles évoquent des raisons de sécurité. Eddy Sango a joint à Kinshasa le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende.
Moi, d'après ce que je sais, c'est notre pays qui a estimé que la situation ne se prêtait pas à ce qu'il puisse venir ces jours-ci. Alors, il a annulé la visite au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, en Russie, en Ukraine. Partout ailleurs, il n'y a pas de problème. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait de problème seulement ici? Ce sont des arrangements professionnels qui se font entre chefs d'État. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit faire des commentaires là-dessus.
Est-ce que la situation particulière en RDC, avec un accord qui n'est pas appliqué, avec l'insécurité qui commence à devenir problématique, n'est pas la raison de cette annulation?
Ça n'a rien à voir. Sinon, le pape ne serait pas allé en Syrie. Il ne serait pas allé en République centrafricaine, où la situation est pire qu'ici. Il n'irait pas au Soudan du Sud, où la situation est pire qu'ici. Donc, c'est les autorités congolaises qui ont estimé que la situation sécuritaire les porte tellement pour que cette visite ait lieu dans ces conditions-là. Il faut attendre que la situation puisse évoluer. Donc, il n'y a pas de signification à ce qu'ils ont fait un jugement de valeur.
Parlant de, justement de l'insécurité, deux experts de la MONUSCO, un Américain et un Suédois, et leurs compagnons congolais qui sont portés disparus. Quelle est la situation exactement? Est-ce que le gouvernement mène des enquêtes là-dessus?
Le gouvernement est en train de rechercher ces personnes qui ont été enlevées. Et le gouvernement n'est pas content du fait que des experts des Nations Unies soient venus sans le prévenir, parce qu'on aurait pu éviter ce drame. Ils sont arrêtés dans une zone qui est une zone d'insécurité, où on aurait pu leur offrir une escorte, où on aurait pu les déconseiller d'aller s'ils avaient prévenu les autorités. Nous devons d'abord résoudre le problème qui est celui de les retrouver vivants de préférence. Il y a des recherches qui sont en train d'être entreprises par nous et par la MONUSCO. Jusqu'à présent, les recherches n'ont rien donné. Nous continuons à chercher, mais nous ne désespérons pas.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, plusieurs attaques terroristes sèment la panique dans le nord du pays, frontalier du Mali et du Niger. Après l'attaque meurtrière de Nassoumbou et l'assassinat d'un enseignant, des mesures sécuritaires ont été mises en place pour assurer la quiétude des habitants. Quelle est la situation sur le terrain? La réponse d'Ismaël Ouédraogo, éditorialiste et directeur de la chaîne de télévision Burkina Info à Ouagadougou.
Plusieurs facteurs expliquent la situation actuelle du Burkina Faso. Le pays est dans une zone assez compliquée avec le terrorisme qui a pris de l'ampleur dans ces pays limitrophes, notamment le Mali et le Niger. Et la partie nord du pays qui est actuellement victime de multiples attaques est à mettre à l'actif, notamment de la radicalisation d'un certain nombre de jeunes de la localité, notamment ce prédicateur Nord de Malam Diko, un jeune connu de la population de Djibo qui finalement avec le temps est devenu donc un présumé djihadiste et qui sème donc la désolation et bien le trouble au sein de la population. Disons que c'est lui et son équipe, hein, ils avaient revendiqué l'attaque de Nassoumbou qui avait coûté la vie à une douzaine de soldats burkinabés. Récemment, un enseignant d'une école primaire a également été assassiné, le nom de Salif Badini. Mais nous avons également un autre élément important, c'est l'incendie d'une école primaire publique sous Payotte également, qui, faut-il le rappeler, par des personnes non identifiées, mais qui pourraient bien être la marque, encore une fois de plus, de ces présumés djihadistes.
Quelles sont les mesures sécuritaires mises en place par le gouvernement?
Alors disons qu'au Burkina Faso, déjà des mesures ont été prises par les autorités au niveau déjà du gouvernorat du Sahel. Une disposition a été prise pour dire aux populations désormais qu'on ne pouvait plus circuler avec les motos, les tricycles, les véhicules de 17h au lendemain matin jusqu'au lendemain matin à 6h, parce que ce qui a été donné de constater, c'est le fait que ces présumés djihadistes se déplaçaient à moto et qui opéraient, qui repartaient tranquillement de l'autre côté de la frontière. On a parlé également du renforcement du dispositif sécuritaire dans cette partie de Burkina Faso par la police, la gendarmerie, mais également et surtout les forces armées nationales. ce qui permet un temps soit peu donc de sécuriser la zone. Mais les multiples attaques dont le pays est victime aujourd'hui sont perpétrées la nuit, ce qui complique davantage la tâche donc de nos soldats qui sont déployés sur le terrain.
Comment le Burkina se compare-t-il aujourd'hui au Mali vu les attaques répétées dans le nord de ce pays?
Le Burkina ne se compare pas à un pays limitrophe par rapport à ces multiples attaques terroristes. Le Burkina Faso est dans une situation bien entendu critique dans une partie de son territoire qui semble un peu l'échapper, mais pas forcément dans le fond. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les chefs d'État et de gouvernement qui ont un cadre unitaire de rencontre qu'on appelle l'autorité de l'État Côte du Gourma qui réunit le Burkina, le Mali et le Niger. Eh bien, ces trois pays ont décidé de la mise en route d'une force multinationale. Eh bien, laquelle force doit travailler à faire en sorte donc, qu'on ait une armée mixte de coopération qui va mieux lutter contre le terrorisme dans cette partie du pays.
Ismaël Ouédraogo, éditorialiste et directeur de la chaîne de télévision Burkina Info à Ouagadougou, joint par Blanche Sanou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Grogne au Centre national de réhabilitation des handicapés à Yaoundé au Cameroun. Le personnel réclame l'application de son nouveau statut adopté il y a 8 ans. Pour se faire entendre, celui-ci a lancé une grève pacifique en début de semaine qui paralyse les services du centre dont la vie se trouve très affectée. Reportage sur place de notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Juntap.
Il ne fait pas bon vivre au Centre national de réhabilitation des handicapés du Cameroun. Les travailleurs sont sans salaire et sans motivation. Ruben Djumou, délégué du personnel.
Nous sommes au troisième mois sans salaire. Ce n'est pas parce que l'argent manque. Nous sommes convaincus que ces moyens sont arrivés ici au centre, mais ça ne nous a pas été donné. Un malheureux ne peut pas s'occuper d'un autre malheureux. C'est pour cela qu'on revendique.
Le Centre national de réhabilitation a aussi un volet formation qui se meurt. Nous sommes dans un atelier de menuiserie en cessation d'activité ce jour.
Je suis donc formateur en menuiserie. Qu'une machine ne fonctionne sur toutes les machines qui sont en face de vous. Au bout des petites pannes, nous sommes obligés d'aller raboter ou scier les planches à l'extérieur et revenir ici leur montrer comment monter tel ou tel ouvrage.
L'atelier de couture ne présente non plus meilleur visage. L'insuffisance du matériel est anecdotique. Une élève raconte.
Dans les 17 machines, il y a seulement 2 machines qui fonctionnent. Par exemple, comme quelqu'un veut voler la carrue, le temps qu'elle termine au colmos, je profite. Quand elle revient, j'attends. Quand elle va se lever, je reviens. C'est comme ça que nous, on fonctionne.
Les patients grincent également les dents contre le Centre national de réhabilitation des handicapés du Cameroun. Madame Concorde Bindi n'a pas eu droit aux soins du jour. Mais il y a pire ici, dit-elle.
Il n'y a pas d'eau courante. Je suis handicapée, je ne peux pas marcher avec mes 2 pieds pour venir puiser l'eau dans le puits. Il faut que quelqu'un d'autre à épuiser l'eau pour que je me lave avec.
Sans eau courante depuis des années, les robinets et la piscine de rééducation du centre sont à sec. La buanderie a pris feu il y a quelques mois et n'a pas été réhabilitée. C'est fort de tout ceci que le syndicat pour l'émergence du social au Cameroun a appelé à la grève pour sauver la dignité du centre et de tous les patients. Romain Rolangor, président du syndicat.
Les pouvoirs publics allouent d'énormes sommes d'argent à cette structure. Nous avons un contrat plan qui s'élève à 4 milliards de francs. Nous avons un budget de près de 500 millions. Et je vous demanderai même de passer dans les dortoirs, les chambres, mais vous verrez que ce n'est pas grand-chose. Cette politique de façade, on ne peut pas la laisser perdurer.
Sans réel pouvoir, face aux multiples doléances, la directrice du Centre national des handicapés est consciente du malaise. Grâce formuleux.
Je résous ce qui relève de ma compétence et ce qui relève des compétences de conseil. Je prépare le dossier pour le conseil.
Est-ce que le conseil d'administration est informé de ce qu'il n'y a pas d'eau courante pour les patients du centre?
La commission de passation de marché du centre a passé cette marché à un individu qui, à la dernière minute, nous a laissé et n'a pas réalisé ça.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi 16 mars, on décrypte le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. La grande tournée de Mohamed VI, de la Zambie à la Guinée, en passant par la Côte d'Ivoire. Une offensive diplomatique remarquée, mais quels enjeux économiques et politiques? Aussi la question épineuse du Sahara occidental qui demeure. Quel avenir pour le Front Polisario? Quelles sont les avancées du Maroc sur ce conflit vieux de 40 ans? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Des hommes armés en provenance du Soudan du Sud ont tué 28 personnes et enlevé 43 enfants en Éthiopie. Les raids du dimanche et du lundi se sont produits à Gogela, Gok et dans la région de Djor, qui borde la région de Boma dans le sud du Soudan. L'armée éthiopienne les poursuit. Un fonctionnaire du gouvernement a déclaré aujourd'hui que la guerre civile au Soudan menace la région. Pour faire le point, Tatiana Mosso a joint Marc Laverne, directeur de recherche au CNRS sur la Corne de l'Afrique.
Les vols d'enfants sont chose commune dans certains peuples du Sud-Soudan qui ont une natalité trop faible, ou bien dont les enfants meurent à faute de soins, de nourriture, ou bien de maladies. Donc c'est quelque chose dans ces sociétés nomades qui est nécessaire pour compléter les rangs de ceux qui deviendront les guerriers de demain, ou bien les éleveurs du bétail ou les gardiens des troupeaux. Et ces enfants seront intégrés à la tribu, évidemment, qui les aura récupérés.
Plus d'un million de Sud-Soudanais ont trouvé refuge dans des pays voisins, en particulier l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya et le Soudan. Est-ce que ce n'est pas aussi les conséquences de ce conflit ?
L'instabilité et les massacres qui durent au Sud-Soudan depuis maintenant plus de 3 ans, et puis cette famine qu'a découvert tout d'un coup l'ONU à travers l'UNICEF, le PAM et autres organisations dont on se demande bien ce qu'elles faisaient pendant ce temps-là, eh bien ça conduit à des déstabilisations internes qui effectivement de proche en proche vont concerner les pays voisins, puisque les frontières sont assez théoriques pour les groupes tribaux ou ethniques qui sont à cheval. Hein. Et donc il y a des relations qui remontent à des siècles en arrière. C'est pas les États qui sont visés en tant que tels, ni l'État ougandais, ni l'État éthiopien. Le Soudan a été un réceptacle de réfugiés de tous les pays voisins à certaines époques, et aujourd'hui c'est le contraire qui se passe. Il n'y a pas là de quoi déstabiliser les États dont les capitales sont assez éloignées.
L'an dernier, l'Éthiopie n'avait pas hésité à franchir la frontière sud-soudanaise. Est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle offensive ? Et si oui, même si les capitales sont loin, qu'est-ce que ça dit des relations dans cette région ?
Je ne sais pas si on peut encore parler d'un État sud-soudanais. Il n'y en a jamais eu depuis l'indépendance. Et là encore, la faute en revient entièrement aux pays occidentaux qui ont voulu la naissance de cet État, qui n'avait aucun embryon d'infrastructure, de services, ni même de volonté de construire un État. Parce que le président de la République, ou même les gens qui s'opposent à lui, n'ont pas le sens de l'État. Ils ont le sens du pouvoir, ils ont le sens de l'argent, mais aucune considération pour les populations. Alors l'Éthiopie, elle envoie des hommes, mais généralement c'est sous mandat de l'ONU, avec des casques bleus, comme les 4000 hommes qui sont stationnés dans le territoire d'Abyei. Pour l'instant, la situation du Soudan, elle est d'abord humanitaire, elle est évidemment politique sur le plan interne, mais aucun pays n'a envie d'envahir le Soudan, qui est plus un problème et une préoccupation pour tous ses voisins.
C'était Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS sur la Corne de l'Afrique, joint par Tatiana Mosso.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des faux médicaments.
Nous nous rendrons en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa, où 40% des médicaments en circulation sont de mauvaise qualité, selon une étude du ministère de la Santé.
Pour en parler, nous recevons comme invité M. Tumbuna Etienne, secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens. Il nous dira comment et pourquoi les faux médicaments circulent en RDC.
Nous écouterons le témoignage de Daniel Ngeleka, directeur de la pharmacie et du médicament, nous expliquera la stratégie du gouvernement contre ces faux médicaments.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, International Music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Michel Joseph. Wagner Roberts était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.